France Culture.
France Culture, le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. Encore des frappes israéliennes ce matin sur Gaza. L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a été retardé. Il devait entrer en vigueur à 7h30, heure de Paris. Un accord qui se fait donc attendre, alors que de nombreux déplacés palestiniens l'espèrent pour pouvoir enfin rentrer chez eux. Donald Trump à Washington, il est arrivé hier soir avant d'être investi demain 47e président des États-Unis. Et puis l'immigration, toujours source de tensions à Mayotte, un collectif de citoyens anti-immigration a tenté de déloger des demandeurs d'asile hébergés dans un lycée depuis le passage du cyclone Chido. Cela fait maintenant 2h30 que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas devait entrer en vigueur. Une trêve qui devait être suivie de libération d'otages israéliens, les trois premiers, trois femmes, cet après-midi, en échange de 95 prisonniers palestiniens. Mais pour l'instant, cet accord est retardé, Michel Paul.
Toujours pas de cessez-le-feu en vue. La liste identifiant les femmes otages libérables cet après-midi n'est toujours pas arrivée en Israël. Alors, en principe, elle aurait dû être fournie hier à 16h30. C'est un retard technique, affirme le Hamas, mais le porte-parole de l'armée israélienne, le général Hagari, affirme lui que selon les directives du premier ministre israélien, le cessez-le-feu n'entrera pas en vigueur tant que le Hamas ne respecte pas son engagement. Et en attendant, ajoute-t-il, l'armée continue à œuvrer sur l'ensemble du territoire à Gaza. Israël confirme ce matin des frappes aériennes sur le terrain. On indique qu'elles auraient fait au moins 8 morts et plus de 25 blessés, selon des sources palestiniennes. Les militaires, selon des témoins sur place, tente d'empêcher le mouvement de déplacés vers le nord de l'enclave. Dans un autre développement, ce matin, l'armée israélienne annonce avoir récupéré, lors d'une opération spéciale, le corps d'Oron Shaul. Il s'agit d'un soldat israélien tué dans le nord de la bande de Gaza en 2014 et dont le corps était toujours aux mains du Hamas. Israël atteindra tous ses objectifs de guerre et ramènera tous les otages. C'est ce qu'a souligné hier soir Benjamin Netanyahou.
Michel Paul de RFI à Jérusalem pour France Culture. Hier soir, le Premier ministre israélien avait déjà lancé une mise en garde. Il s'agit d'un cessez-le-feu provisoire et nous nous gardons le droit de reprendre la guerre si besoin. Et avec le soutien des États-Unis, avait-il lancé. Un accord de cessez-le-feu retardé. Donc ce matin, de nouvelles frappes israéliennes sur le nord de la bande de Gaza. Gaza, où même si c'est toujours l'attente, cette trêve est synonyme d'espoir, fragile mais crucial. Pour les Gazaouis, ce serait un répit et un soulagement après 15 mois de bombardements et de combats incessants. Un espoir toujours là pour les milliers de déplacés qui n'attendent qu'une chose, rentrer chez eux. Alice Froussard, à distance, car les journalistes étrangers ne peuvent toujours pas entrer à Gaza, a recueilli leur témoignage.
Pour la majorité des Gazaouis déplacés d'un bout à l'autre de l'enclave côtière dévastée par 15 mois de guerre, l'objectif premier est de retrouver leur maison. Oum Mohamed vient de Jabalia au nord, mais elle est à Derbala, au centre.
Je débarrasserai les gravats de ma maison et j'irai ensuite y placer ma tente sur les décombres et je retournerai y vivre avec mes enfants qui sont 10.
Comme elle, beaucoup ont dû fuir cette zone dès les premiers mois à la mi-octobre 2023. Certains savent d'ores et déjà qu'ils vont devoir chercher un nouveau foyer, d'autres comme Nasser, ne savent même pas si leur maison est encore debout.
Je vais être la première personne dans la ville de Gaza. J'irai embrasser ma terre parce que je regrette déjà de l'avoir quittée. Mourir sur ma terre sera toujours mieux que rester réfugié ici.
Des habitants parlent de manger des fruits, des légumes, de la viande. Certains veulent faire sortir leurs proches malades. Khalil, lui, veut d'abord reprendre contact avec ceux qu'il a perdu de vue depuis 15 mois.
De certains, nous ne savons pas s'ils sont vivants ou morts. L'idée, c'est d'abord de s'assurer que tout le monde est en vie et si Dieu le veut, qu'ils soient en bonne santé.
Et puis, il y a tous ces Gazaouis qui savent que les prochaines heures seront difficiles, qu'ils les passeront à chercher des proches encore sous les décombres ou à enterrer tous ceux qu'ils ont perdus pour leur dire au revoir de manière digne.
Voilà pour l'information de cette matinée. La trêve entre Israël et le Hamas est retardée. Elle devait entrer en vigueur ce matin à 7h30, heure de Paris. Mais Israël attend la liste des otages qui doivent être libérés aujourd'hui. Autre conflit, celui entre l'Ukraine et la Russie. 6 personnes ont été tuées en Ukraine, dont 3 à Kiev, par des frappes de missiles russes. Alors que Moscou revendique de nouvelles avancées sur le terrain, l'armée a déclaré avoir frappé un site militaire à Kiev en représailles à l'utilisation par l'Ukraine de missiles américains. France Culture, 9h et bientôt 5 minutes, direction les États-Unis à présent. Donald Trump est depuis hier soir à Washington, où il sera investi demain, 47e président des États-Unis. Avant d'arriver avec son épouse Melania et leur fils Baron, depuis leur fief de Mar-a-Lago en Floride, il a promis qu'il signerait un nombre record de décrets présidentiels immédiatement après sa prestation de serment à midi à l'intérieur du Capitole, à cause du froid dans la capitale américaine. Le milliardaire élu en novembre a mené une transition relativement douce avec son prédécesseur Joe Biden depuis son élection le 5 novembre dernier. À Washington, Sébastien Paour.
76 jours menés d'abord de manière beaucoup plus organisée et donc plus rapide que lors de sa première élection. Le casting des ministres potentiels avait déjà commencé en amont. Trump et son équipe de transition ont annoncé plusieurs centaines de noms pour les directions fédérales, les agences nationales et les postes clés, son cabinet et les adjoints. Une différence notable avec l'impréparation qui a caractérisé sa première entrée en fonction. Surtout, actualité oblige, l'équipe de transition s'est efficacement rapprochée de l'administration sortante ces dernières semaines pour parvenir à obtenir un accord de cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas. L'émissaire de Joe Biden pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, a travaillé avec celui du président élu, Steve Witkoff. Les deux hommes ont passé beaucoup de temps à Doha, au Qatar, et ont multiplié les allers-retours dans le bureau du Premier ministre israélien. L'équipe démocrate sortante n'a cessé d'affirmer qu'elle ferait tout pour que le passage de relais se passe paisiblement. Biden a reçu Trump à la Maison-Blanche juste après l'élection, et contrairement à Trump en 2021, il assistera bien à l'investiture de son successeur demain au Capitole.
TikTok met sa menace à exécution, faute de garantie du gouvernement Biden, et alors que Donald Trump ne peut pas intervenir avant sa prise de fonction, le réseau social a cessé de fonctionner aux États-Unis. Le prochain président américain a toutefois indiqué hier qu'il accorderait très probablement un sursis de 90 jours à TikTok après son investiture. La loi interdisant la plateforme chinoise prend effet aujourd'hui. Elle rend les boutiques d'applications passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $ par utilisateur, soit 850 milliards de dollars en se basant sur leur nombre. À Mayotte, alors que la rentrée administrative des professeurs est prévue demain, le collectif citoyen Mayotte 2018 a tenté vendredi de déloger des demandeurs d'asile hébergés au lycée Younoussa Boumana. Ses membres se disent inquiets pour la rentrée des élèves. Entre 400 et 500 migrants ont trouvé refuge dans cet établissement scolaire. Ils ont pour la plupart fui la Somalie ou des pays de l'Afrique des Grands Lacs. Et comme l'ensemble de la population à Mayotte, ils ont vu leur logement de fortune détruit par le passage des cyclones sur l'archipel. Une nouvelle solution d'hébergement doit leur être proposée par la préfecture. Mais ces demandeurs d'asile restent choqués par cette tentative du collectif anti-immigration de les déloger, Loïse Weiss.
À l'image de Dina, 18 ans, encore abasourdie par ce qu'elle a vécu, originaire de la République démocratique du Congo et enceinte de 5 mois, elle s'était réfugiée à l'intérieur du lycée après le passage du cyclone Chido. Ce vendredi matin, elle a tout perdu une deuxième fois.
Nous avons eu très très peur parce qu'il nous a agressé, on nous a arraché tous nos biens. Nos sacs, nos matelas.
Or, depuis plus d'un mois, ces demandeurs d'asile connaissent déjà le manque d'eau, de nourriture et les coupures de courant. Wilson, 31 ans, dort lui aussi entre les tables et les chaises du lycée. Cette violence de la part du collectif, il ne la comprend pas.
Le cyclone est arrivé, ça a chamboulé le tout, mais ça ne leur permet pas de venir nous chasser, nous n'avons pas où aller.
Sur place, plusieurs associations accompagnent ces réfugiés. C'est le cas de la Ligue des droits de l'homme, représentée à Mayotte par Daniel Gros, pour qu'il amène une politique toujours plus répressive à l'égard des demandeurs d'asile et légitime de fait les intimidations à leur encontre.
Ça crée des effervescences dans les mentalités des gens. Ça va pas. L'État désigne les bidonvilles comme un gros problème et les gens qui y habitent comme un gros problème, mais il ne propose pas d'alternatives de logement. Hein. C'est-à-dire, en fait, il n'y a rien de prévu encore. Hein. On râle contre le plus pauvre, voilà.
Pour l'heure, les demandeurs d'asile ne savent pas encore où ils seront relogés. Contactés, la préfecture n'a pas répondu à nos sollicitations.
La proposition de loi sur la sécurité dans les transports arrivera à l'Assemblée juste après le vote du budget, annoncé hier du ministre des Transports, Philippe Tabarot. Elle prévoit notamment la légalisation et la généralisation des caméras mobiles ou encore l'élargissement du périmètre d'action des agents de sûreté ferroviaire. Le temps aujourd'hui gris le plus souvent ce matin avec des brouillards givrants dans l'Est, plus ensoleillé cet après-midi, mais des nuages en Nouvelle-Aquitaine, dans le Nord-Ouest en Provence et sur la Côte d'Azur. La Corse est toujours en vigilance orange, pluie et inondations. Les températures, moins 6 à moins 1 degré ce matin dans les terres, 0 à 4 en bord de mer, jusqu'à 10 en Corse et sur la Côte d'Azur, 5 à 9 cet après-midi sur la moitié sud, même 13 à 16 près de la Méditerranée et dans le Pays Basque, pas plus de 1 à 4 sur la moitié nord.